2004 et dernière expérience en avril au Brésil, je l'ai dit, avec BMC. Qu'est-ce qui reste de ce retour en tant que directeur sportif de cette expérience?
Oui, alors je suis revenu en 2021 au mois d'août pour relancer un petit peu le creux de la vague, là que c'était. On a bien relancé parce que l'année suivante on gagne deux Coupes du Monde. Voilà, après on a mis en place et maintenant voilà, des fois il y a un petit peu du changement et puis des aléas de la vie, comme on dit, mais il y a toujours du bien avec un petit peu de changement, soit d'un côté, soit de l'autre. Alors un petit peu plus avec la famille là, tout d'un coup, avec les enfants qui font à bloc le sport aussi, alors on est content. Et puis j'ai mes athlètes à moi aussi que je suis, et on pourrait être un peu plus présent.
Lesquels, on peut préciser, qui est-ce que vous accompagnez à l'Exmos?
Ouais, j'ai surtout Evan Deli de Martigny, qui a fait une super performance hier, parce qu'il y avait aussi une EKK Bike Series en Gruyère. C'était super, il a fait une magnifique 9e place. Et peut-être le scoop, aujourd'hui, on a une championne d'Europe, Anne-Valérie Thalmann, qui est venue championne d'Europe de grand fondo dans sa catégorie. Voilà, peut-être vous ne la savez pas, celle-là.
Ah non, je ne savais pas celle-là.
Eh ben voilà.
Vous étiez aussi surtout impliqué avec BMC dans le cross-country. Vous touchez à d'autres disciplines du VTT, puisque toutes seront représentées en Valais.
Oui, c'est une grande palette hein, maintenant, avec le cross-country, la short race, c'est quand même les disciplines un peu plus olympiques, le marathon que je connais bien. Et après, c'est clair, souvent sur les manches de cross-country, il y a aussi la descente. Alors, on a un petit œil sur la descente, mais qui sont complètement des athlètes différents et une façon d'approche qui est complètement différente. Mais les marques et sont souvent en synergie, les composants et tout ça. Et puis voilà, après, t'en as d'autres épreuves où on a moins, on a un petit peu moins l'œil, mais ouais, le BMX, bon, je crois qu'il y aura pas, mais je veux dire, le pump track, tout ça, c'est aussi des sports fun que, voilà, les jeunes pratiquent aussi, alors on connaît aussi.
Le pump track qui peut se faire avec un vélo de type BMX ou un vélo de type qui se rapproche plus du VTT par ailleurs. L'évolution du VTT telle que vous l'avez pratiqué à l'Exmos, telle que vous l'avez aussi accompagné de l'extérieur.
Bon, moi j'avais fait ma carrière, elle était faite sur la route. Après j'ai fait plus ou moins du marathon. Après le cross country, voilà, ce qui a changé dans le cross country, c'est venu un peu plus court, le temps de l'épreuve est passé autour de 1h20 maintenant. Ce qui change ces dernières années ou l'année passée ou ces dernières années, on vient sur des parcours qui sont plus roulant, un peu plus, je veux dire, à l'œil du téléspectateur, un peu plus, ça touche plus, ça impressionne plus, avec des grands sauts, mais c'est des pistes qui sont un peu plus lisses, que ça roule plus vite, et souvent plus groupées avec plus de suspense. Avant, on avait vraiment plus des courses avec beaucoup plus de racines, du naturel et tout ça. Maintenant, ça passe un peu sur l'artificiel où on veut justement que ça, y a du suspense jusqu'à la fin.
Il y a encore une complémentarité entre les circuits cross-country et les circuits marathon, puisqu'on sait que pendant de très nombreuses années, certains faisaient les deux. Là, vous le dites, cross-country, des épreuves plus courtes, plus ramassées, du coup, c'est moins évident de se lancer en marathon.
Non, ça n'a rien à voir. Je suis juste un petit peu déçu que le marathon, justement, et avant le cross-country, sur les championnats du monde, parce que ça aurait permis aux coureurs du cross-country d'aller faire le marathon. Ils seraient venus ici, ils auraient fait le cross-country, plus peut-être une semaine après le marathon. On a vu l'année passée, c'est quand même les coureurs du cross-country qui sont venus champions du monde. Hein. Et voilà, et même s'il y a 3-4 heures de plus, ils sont aussi préparés. C'est clair que le grand raid, c'est encore autre chose. Entre 4 heures d'un marathon ou 6 heures, ça change énormément. Et là, c'est clair qu'ils auraient eu vraiment de la peine, les gars du cross-country.
Comme quoi, cette complémentarité existe encore. Si on reste sur cette planète VTT, avec vos diverses casquettes, votre connaissance, si on parle des championnats du monde Valais 2025, ça se présente bien de Champéry à Crans-Montana, en passant par Monté, Belval, Zermatt, Verbier et Grimens. Voilà, qu'est-ce que vous sentez là, à moins de 100 jours de l'événement, comme énergie et qu'est-ce qui s'en dégage?
Ah, je ressens beaucoup d'enthousiasme quand même. Hein. C'est un long moment que ça en parle. Hein. Maintenant, on arrive gentiment au bout. Je pense qu'il y a tout le monde qui est impatient d'y arriver. Et voilà, comme dans le sport, il faudra mettre les gaz au bon moment et les mettre à fond les jours J. Mais je pense que ça va être vraiment le top et on se réjouit.
Il y a deux symboles, j'ai envie de dire. Laurent Dufaux, dernier Suisse à avoir remporté le Tour de Romandie. Vous êtes le dernier Valaisan à avoir remporté le Grand Raid. Ça vous ennuie un petit peu? Vous accrochez un peu à ce statut? Vous aimeriez bien qu'un Valaisan soit votre successeur un jour?
Ah bah c'est clair que oui, hein. J'ai pas trop pensé à ça, hein. C'est clair que ça passe, les années passent, maintenant on regarde ça d'un œil différent, mais je pense aussi pour le public et tout ça, c'est clair que ça va vite, l'enthousiasme, moi quand je marchais sur la route, où j'ai pu gagner justement les étapes au Romandie autour de Suisse, tu sentais que les spectateurs ils étaient là, ils venaient, les Valaisans restent quand même chauvins avec leur Valaisan, et j'étais vraiment énormément encouragé, maintenant sur le Grand Raid c'était la même chose aussi. J'ai beaucoup de spectateurs, beaucoup de gens qui venaient. C'est clair que quand il manque quelques coureurs du cru, il y a un petit peu moins d'enthousiasme. Ça, c'est clair. Alors, on espère que rapidement, on va retrouver quelqu'un au sommet de la pyramide.
On sait qu'il y a un immense boulot qui est fait par les clubs dans chaque région, qui est fait aussi par la Fédération Valaisanne de cyclisme, avec la mise en place d'une académie, le suivi. Malgré tout, ça va dans le bon sens, selon vous, pour l'évolution, pour peut-être le retour aussi au premier plan du VTT en Valais?
Oui, tout à fait. Je pense que avant il n'y avait pas grand chose. Maintenant, il y a beaucoup d'enthousiasme, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Ça prend un peu du temps et il faut laisser un petit peu du temps. Mais la route tourne du bon côté et ça va venir. Il faut voilà sur cette lancée faire des courses de cross-country aussi. Et continuer sur cette bonne lancée des championnats du monde. Et moi, je suis sûr avec le job qu'il est en train de faire, et ben ça va arriver des top pilotes qui vont prôner les belles places tout bientôt.
Un dernier mot sur le vélo avant de basculer sur d'autres thématiques que j'aimerais aborder avec vous, Alex Mauss. Le e-bike en compétition, vous avez un avis sur cette question, parce que on a l'impression qu'il y a beaucoup de pratiquants de vélo avec un moteur, comme on dit, de vélo à assistance électrique, mais que la transformation de l'essai en mode compétition, ça prend pas encore tout à fait.
En tout cas, l'épreuve, on dirait, de où tu deviens un champion du monde qui est un peu typé cross-country, franchement, c'est nul, quoi. Il y a 10 pilotes au départ, voire 12. C'est vraiment pas terrible, terrible. Non, ça prend pas du tout. Par contre, comme il y avait avant l'e-bike de Verbier, où on était à deux, et on faisait le tour du Mont Blanc, on sortait à étapes et tout ça, avec la batterie, avec la gestion de coureurs et tout ça, une aventure. Ouais, ça, c'était chouette. J'ai participé à trois éditions. C'était un grand moment de partage et c'était chouette, mais le type olympique, non, c'est pas ça.
Bon, bah, peut-être qu'il y aura un créneau pour le VTT électrique en compétition malgré tout. Encore quelques mots sur vos autres passions, Alex Mauss l'a dit, notamment le hockey sur glace. Journée très spéciale pour le supporter du HC Sierre que vous êtes, avec l'approbation par les citoyens sierrois du projet de nouvelle patinoire.
Oui, tout à fait. On en a transpiré ces derniers jours, on a transpiré, on en a beaucoup parlé, et finalement on est hyper content de ce résultat de 63, quasiment 64% de oui. Et je pense que mes enfants font aussi du hockey, plein de jeunes font du hockey, et il n'y a pas que le hockey, parce qu'il y a plein d'autres sports qui rentrent en ligne de compte, mais on est tous heureux et soulagés, et je pense que ça va dynamiser tout le HCCR et l'entourage avec ça.
Vous venez de le dire, ça va au-delà du HCCR.
C'est clair, ça va au-delà du HCCR, ça va au-delà de Sierre. C'est la jeunesse, là, quand je vois, moi j'ai pratiqué pendant longtemps la course à pied et on n'avait pas de stade à Sierre. Je me rends souvent à Ecosia aussi pour le street hockey. Quand je vois le nombre de jeunes qui pratiquent la course à pied maintenant qu'il y a ce stade, c'est super chouette. Et puis pour le hockey, c'est la même chose, là. Quand on aura une nouvelle structure et tout ça, ça va redonner, ça va rebooster. Et puis, franchement, ça fait vraiment plaisir pour la jeunesse.
Le sport générateur d'émotions. Les Sierre Lions, vous venez d'en parler, ça c'est l'autre passion, oui, qu'on voulait encore aborder, avec un titre de champion suisse, je crois que vous étiez aux premières loges.
Oui, on a fait très fort, eh ben justement j'ai pu être là sur les deux derniers matchs. On perdait 2-0, on a régalisé 2-2, puis on a été battre au Berville là-bas sur place. C'était assez fou. Voilà, j'ai pu être dans cette équipe quand on a perdu la première finale. Après on a gagné la finale, on a gagné la coupe, j'étais aussi présent. Et maintenant, on regagne deuxième fois comme ça dans une situation de renversement. C'était voilà. Et non, c'était top là.
Vraiment. Vous avez vécu de sacrés moments avec ces casquettes. Bah, merci beaucoup en tout cas, Alex,
d'avoir
trouvé le temps de venir nous trouver à Rhône FM. Bonne suite à vous et à bientôt.
Eh, merci, c'était trop sympa. Merci, à bientôt.
Et nous, on se retrouve juste après la musique pour parler de basket avec le secrétaire général de la Fédération Suisse et ancien entraîneur d'Elios, Eric Lehmann.
Zone Mix sur Rhône FM.
Oh, joli.
Les championnats nationaux de basket sont terminés depuis plusieurs semaines. Les Lions Genevois, les filles de Nyon ont remporté les titres en détrônant au passage les équipes masculines et féminines de Fribourg, Olympique et Elphique. Et même si les compétitions majeures sur le plan national sont terminées, le basket suisse fourmille de partout avec deux très gros événements en ligne de mire. L'Euro féminin qui démarre mercredi pour la Suisse et la Coupe du Monde des moins de 19 ans qui s'installe à Lausanne pour une grosse semaine dès le 28 juin. Pour évoquer ces tournois, entre autres, nous sommes en ligne avec Eric Lehmann, secrétaire général de Suisse Basket. Bonsoir.
Bonsoir.
Eric Lehmann, j'ai dit en introduction, on parle de basket en juin, en juillet, avec des gros tournois, des participations et des implications de la Suisse à plusieurs degrés. Ça doit vous changer de certains étés plus calmes pour le basket helvétique.
Oui, oui, c'est sûr, on est super content, on est sous le feu de la rampe, on l'a dit avec cet Euro féminin, avec le championnat du monde des moins de 19 ans, mais aussi avec la draft, puisqu'on a un joueur qui très probablement va être drafté assez haut, en tout cas on espère encore en fin de premier tour ou assez haut dans le deuxième tour. On a les garçons cet été qui vont être engagés dans les qualifications à la World Cup, avec deux matchs très importants contre la Slovaquie et l'Ukraine. Donc c'est vrai, été très chargé, été très studieux, mais c'est pas fait pour nous déplaire.
Ah oui, on imagine que c'est positif pour le basket suisse. On va parler de l'Euro féminin dans quelques minutes, mais un mot d'abord sur la Coupe du Monde U19, un sacré chantier pour Swiss Basket, sacré honneur aussi, on l'imagine, de recevoir et donc de pouvoir participer à cette compétition.
Bah, je crois que cet ensemble de choses montre le crédit qu'on donne aujourd'hui au basket en Suisse, et ça c'est très nouveau. Je crois qu'on a franchi un palier, on est respecté sur le plan européen. Et le fait que la FIBA nous ait confié l'organisation du plus gros événement de basket sur la planète FIBA cette année, hein, pas de championnat du monde senior, pas de Jeux Olympiques. Donc le centre mondial névralgique du basket sera à Lausanne du 28 juin au 6 juillet, et ça on est fiers et on attend des matchs de niveau incroyable, parce que ça a beau être des moins de 19 ans, ce sont des joueurs qui sont tous ou déjà en contrat avec la NBA ou très proches d'y arriver.
Justement, les stars de demain.
Oui, les stars de demain, même les stars d'aujourd'hui. En tout cas, c'est un niveau auquel on n'a pas du tout l'habitude d'être confronté ici en Suisse. Les spectateurs vont se régaler. On va avoir des joueurs de gabarit incroyable, de niveau athlétique incroyable. On est d'ailleurs déjà très content parce qu'on a plusieurs journées où on a déjà vendu plus de 5000 billets. Donc, on sait que ça va être un succès populaire incroyable. Et puis, il y a plein d'autres choses autour. On en parlera peut-être un peu après, mais on est tellement, tellement content d'organiser cette compétition et de voir que ça va être un magnifique succès populaire.
Et l'équipe de Suisse, alors, à cet âge-là, elle vaut quoi et elle peut espérer quoi de ce rendez-vous et en termes de relais?
Alors, c'est compliqué parce que, par exemple, dans une Coupe du Monde comme ça, on n'a que les 5 meilleures équipes européennes. Donc, il y en a beaucoup. L'Espagne n'est pas là, l'Italie n'est pas là, la Croatie n'est pas là. Donc, c'est compliqué. Et nous, on est là en tant qu'organisateurs. On a quelques ambitions avec cette équipe parce que, d'abord, on a des joueurs qui sont issus de notre centre national. Donc, on commence à produire des joueurs intéressants. Puis, on a quelques joueurs qui jouent à l'étranger, qui sont déjà dans une université américaine. Dayan Nessa qui est passé par le FC Barcelone. Donc, on a quand même quelques arguments à faire valoir, même si on sait que ça sera extrêmement compliqué face aux États-Unis, Canada, Australie, Chine, j'en pense, c'est des meilleurs. Non, c'est le top niveau mondial, c'est encore autre chose que le niveau européen. Et quand on connaît comment le basket est développé sur l'ensemble de la planète, on sait que ça va pas être simple.
En tout cas, après la fête de gym, il faudra rester à Lausanne. Et avant ce mondial U19, il y aura donc l'Euro féminin. La Suisse attendait d'y participer depuis près de 70 ans. Là aussi, Eric Liman, une belle vitrine, beaucoup de fierté, on l'imagine.
Ouais, c'est vraiment vraiment génial ce qui nous arrive. Pour une fois, les planètes se sont alignées. Souvent, on est victime de paniers à verrage de dernier moment, de résultats qui n'étaient pas prévus, et on se fait éliminer toujours dans la dernière ligne droite. Là, ça s'est bien aligné en février, après un début de campagne de qualification très compliqué, où on a commencé par deux défaites. Ben, on a réussi à accrocher, c'est finalement la dernière place qualificative de cet Euro. Et là aussi, être parmi les 16 meilleures équipes européennes, quand on connaît le développement du basket féminin sur le territoire européen, c'est vraiment génial. C'est compliqué parce qu'on l'a vu dans la préparation, on affronte des équipes, on a joué deux fois la Serbie, on a joué l'Espagne, c'est pas simple, mais on a de l'ambition parce qu'on va en Grèce dans un groupe de quatre où il faudrait être dans les deux premiers pour participer au quart de finale. On va affronter la Grèce, la Turquie et la France. Bon, la France c'est évidemment injouable probablement pour personne, mais on a quelques petits espoirs face à la Grèce et la Turquie. Je crois qu'on devrait être capable de matcher face à ces équipes.
Bon, on va vous retrouver dans 5 minutes, Eric Lehmann, parce que vous venez d'en parler et on en a aussi évoqué ce tirage au sort, entre autres avec un certain Romain Gaspeau, le Valaisan, l'un des Valaisans embarqués dans cette aventure à l'Euro féminin, le coach delphique et l'un des assistants du sélectionneur François Gomez au sein de l'équipe de Suisse féminine. Nous avons pu joindre Romain Gaspeau il y a quelques jours pour évoquer ce tournoi. Première question, comment se répartissent les rôles dans le staff technique de cette équipe nationale féminine?
Naturellement, l'entraîneur en chef qui est en charge des temps de jeu, du management général de l'équipe, forcément de l'idée globale, c'est quand même lui qui l'a imposé entre guillemets à l'équipe. On a beaucoup échangé sur quel genre de défense on voulait avoir, quel genre d'attaque aussi. Mais après, voilà, ça c'est sa responsabilité. Après, la responsabilité plus précise pour ma part, c'est l'axe défensif, travailler sur la défense de l'équipe. Émilie est plutôt en charge de l'aspect offensif. Et puis, il ne faut pas oublier Besrat Temelson, ancien assistant à Montet, qui est en charge de la vidéo, qui fait beaucoup de boulot, un boulot assez ingrat, un peu invisible, mais beaucoup de travail pour préparer les matchs à la vidéo, pour qu'on soit le plus près possible. Donc ça, c'est un petit peu la répartition des tâches pour essayer, comme je l'ai dit avant, de bien accompagner l'équipe, qu'elle sache aussi vers qui se retourner en fonction des besoins, des attentes, pour être le plus professionnel possible.
Un staff au Forex sont valaisans et chablaisiens par ailleurs. Romain Gaspo, quelle est l'identité de cette équipe de Suisse? Et une question dans le prolongement, à quoi vous voulez qu'elle ressemble cette équipe de Suisse en termes de jeu, en termes de valeur?
Bon, je pense qu'il faut rester sur ce qui a fait notre succès dans les fenêtres qu'on vient de passer. Je l'ai dit, novembre, février, c'était une équipe qui n'avait pas peur, qui osait se confronter à, il faut déjà le dire, des grosses nations du basket. On a battu le Monténégro, donc on est rentré dans ces matchs avec, je l'ai dit souvent, mais de l'ambition. Et surtout beaucoup de courage, d'intensité. Le visage de l'équipe, c'est naturellement, on n'a pas une équipe hyper volumineuse physiquement, si on se compare aux meilleures nations d'Europe, mais on essaie de compenser ça par beaucoup d'intensité. C'est ce qu'on essaie de produire en défense, une défense agressive, intense, avec beaucoup de rotation, beaucoup de combats. On doit compenser un petit peu ce manque de taille, ce manque de volume physique. Offensivement, c'est dans le partage du ballon que ça se passe. On n'a pas une joueuse sur laquelle on peut s'appuyer pour mettre 20 ou 30 points. Donc on essaie de bien se partager le ballon, sachant qu'on a quand même aujourd'hui en Suisse, dans le basket féminin, des filles qui sont bien exportées. Je ne vais pas oublier des noms, mais on peut parler de Nancy Fora qui joue en Ligue féminine en France, ou d'Evita Hermajar qui joue une très très belle saison en Slovaquie. Donc on a des internationales suisses qui réussissent à l'étranger, donc on s'appuie aussi naturellement sur elles. Mais je pense que ça se passe d'abord dans le collectif, l'envie de se partager le ballon, l'envie d'être solidaire en défense. Et puis dans la mentalité, c'est de ne pas avoir peur, d'être dans le combat, l'intensité, pour essayer de compenser forcément des lacunes par rapport aux très grosses nations européennes.
Les grosses nations, il y en aura dans votre groupe, Romain Gaspo. On en avait parlé un petit peu avec Nadia Constantin. Tirage au sort à la fois difficile et rêvé, parce que la Grèce qui accueille ce championnat d'Europe, la Turquie qui est un pays de basket, et surtout la France finaliste des derniers JO, ce sont des gros morceaux.
Ah ouais, je pense qu'il y a naturellement à l'Euro pas de petites équipes. La Grèce, c'est quand même une grosse nation de basket qui va jouer à la maison, donc on aura la chance de jouer dans le stade d'Olympiakos, qui a priori sera bien plein pour ce match d'ouverture. Parce qu'on a la chance ou la malchance d'être le match d'ouverture. Ça va être, je pense, un grand moment pour tout le monde de pouvoir jouer dans un stade d'Euroleague qui sera plein et face à une équipe de Grèce qui a du talent, des joueuses d'Euroleague à nouveau. La Turquie, c'est une grosse nation de basket, vous l'avez dit. Dans le basket féminin, c'est Fenerbahçe, multiple champion d'Europe. Donc, une équipe difficile à manier qui, je pense, a vraiment l'objectif de sortir de cette poule. Donc, il sera naturellement prête pour ça. Et bon, la France, si c'est pas ce qui se fait de mieux sur la planète, c'est en tout cas pas loin, parce que ça s'est vu lors des JO qu'ils étaient tout près des États-Unis. Donc, c'est certainement une des meilleures nations du monde. Donc, tout ça, mis bout à bout, c'est un gros challenge devant nous. Et je pense beaucoup de belles expériences. Mais encore une fois, on va aborder ces matchs avec beaucoup d'ambition. On joue la Grèce en premier, donc je pense que c'est là qu'il faudra déjà servir à des talons un peu ce match, parce qu'il faudra être très très bon dans ce match-là. S'il y a un match à prendre, c'est peut-être celui-là. Ça semble, sur le groupe qu'on a, peut-être l'adversaire le plus prenable, même si ce n'est pas un adversaire facile. Peut-être que sur le papier, c'est peut-être le plus prenable, mais bon, c'est à la maison. Mais je pense que c'est vraiment le match qui peut nous servir de référence pour peut-être la suite. Si on est capable de prendre la Grèce, peut-être qu'on arrivera contre la Turquie avec de la confiance. Et pourquoi pas jouer un quart.
Gaspo, une dernière question sur le plan personnel. Vous avez déjà remporté de nombreux titres, vécu de nombreuses aventures sur le plan suisse, sur le plan international, notamment avec Elfic. Où est-ce que vous placez cette participation à l'Euro en termes de fierté, en termes de sensations fortes?
C'était quand même une journée particulière, parce que quand on a fini notre match contre la Bosnie, on savait qu'on avait fait une magnifique performance, mais on ne savait pas forcément qu'on était qualifié. Il y a eu un peu des hauts et des bas au fur et à mesure de la soirée avant de savoir qu'on était qualifié. Donc c'est vrai que c'était un petit peu particulier, parce qu'on n'a pas vécu cette qualif en direct avec l'équipe. Mais c'est forcément quelque chose qui est, je pense, historique. Donc naturellement, très haut placé pour moi. Réussir à jouer à un événement comme celui-là, c'est quelque chose d'exceptionnel. Je pense que plus on va s'approcher de la compétition, quand on va voyager vers Athènes, je pense qu'on va se rendre compte du magnifique parcours qu'on a fait, parce qu'on va jouer, on va se rendre compte de la réalité de l'endroit où on est, de l'opposition, de l'ambiance. Donc ça va être quelque chose de très particulier. C'est certainement tout en haut de ma carrière. carrière d'entraîneur. Donc, très, très heureux de participer à cette aventure avec un super groupe de joueuses. Donc, c'est, pour l'instant, c'est que du bonheur.
Du bonheur. Pour Romain Gaspo, Eric Lehmann, on vous retrouve après cet entretien. Départ imminent, là, pour la Grèce et pour un nouveau monde, pour cette équipe de Suisse féminine.
Oui, oui, c'est demain matin. Donc, l'équipe, le 12, l'équipe qui va participer à l'Euro a été communiquée. Une cérémonie un peu officielle. Formel de remise des maillots et voilà, l'équipe s'envole demain matin. Comme le disait l'assistant, comme disait Romain, ils vont plonger vraiment dans la compétition puisque les technical meetings, enfin toute l'organisation d'un championnat d'Europe va leur tomber dessus dès demain, dès qu'elles vont descendre de l'avion, elles vont être rencontrer leurs adversaires, rencontrer les gens de la fédération internationale, enfin voilà, plonger dans l'événement et c'est vrai que pour la plupart de nos joueurs, ça sera quelque chose de complètement nouveau.
Et on se réjouit de suivre tout ça. Eric Lehmann, il nous reste 2 minutes. Vous allez bientôt quitter la scène du basket helvétique. Du moins, vous allez boucler votre mission de secrétaire général de la fédération à la fin de l'été. Vous aurez l'impression à la fin de l'été d'avoir bouclé la boucle ?
J'ai l'habitude de dire que l'espérance de vie des responsables de fédération comme ça, c'est 4 ans. C'est ce que nous dit Suisse Olympique. J'aurais fait 7. Je crois que 7, j'ai pas mal. Non, je suis très content du parcours. C'est compliqué hein, parce que le basket en Suisse, c'est pas à la place où il devrait être parce que c'est vraiment discipline qui se développe sur la planète entière dans tous les pays et qui va de toute façon se développer en Suisse. Il y a beaucoup de signaux qui sont aujourd'hui au vert. On est beaucoup plus reconnus. On a parlé du championnat du monde, on a parlé du championnat d'Europe, on a parlé du centre national qu'on a ouvert il y a 4 ans. Donc on a beaucoup de crédibilité, même internationale aujourd'hui. Malheureusement, on a quelques petits points noirs. On a effectivement le problème économique qui est l'économie de nos clubs et de nos clubs masculins de haut niveau. Ça, c'est un vrai souci. On doit construire des infrastructures pour leur permettre de développer une économie qui le mérite et qui puisse leur permettre d'être compétitifs sur au niveau international. Ils le méritent et on a des joueurs suisses qui méritent aussi d'avoir des clubs de haut niveau.
Une fédération parfois chahutée, hein, et Eric Lehmann, notamment avec ces problèmes parfois administratifs, des problèmes de clubs aussi qui peinent à trouver de l'argent et qui trouvent en la fédération parfois un coupable idéal.
Oui, c'est de toute façon pas en déshabillant l'un qu'on rhabille l'autre. C'est clair qu'aujourd'hui, la fédération se porte plutôt bien, on l'a dit, il y a des succès, il y a de la crédibilité, etc. Et puis, le basket de club, et le basket de club masculin surtout de haut niveau, se développe pas à la même vitesse. Et c'est justement aujourd'hui la mission de la fédération, de mettre en place des conditions, cadres, pour permettre à ces clubs de se développer. C'est ça notre mission, c'est pas de prendre 3 francs dans un pot pour le redistribuer de l'autre. Ça, je pense, c'est pas la mission d'une fédération, mais nous, on doit mettre tout le monde sous le même toit et favoriser le développement de tous et de manière harmonieuse.
En tout cas, on aura parlé du basket qui va moins bien sur cette dernière question, mais surtout du basket suisse qui va bien avec donc cette participation au championnat d'Europe pour l'équipe de Suisse féminine et la Coupe du Monde. Merci infiniment, Eric Lehmann. On peut aussi dire que la recherche de votre successeur bat son plein et que peut-être qu'on aura l'occasion de vous recroiser, vous, en Valais prochainement. Bonne soirée.
Oui. Bonne soirée, merci pour l'invitation.
Merci encore. Et c'est ainsi que s'achève l'émission du jour, l'avant-dernière de la saison. Zone Mixte sera de retour la semaine prochaine avant la pause estivale. Merci à Simon pour sa présence en studio à nos côtés pour les aspects techniques. Et surtout, belle fin de dimanche à toutes et à tous à l'écoute de Rhône FM.
18h15, 19h, le dimanche, l'essentiel du sport. C'est Zone Mixte sur Rhône FM.
While there it was rough, but lately I've been doing better than the last 4 cold Decembers I recall. And I see my family every month. I found a girl my parents love. She'll come and stay the night, and I think I might have it all. And I thank God every day for the girl he sent my way. But I know the things he gives me, he can take away. And I hold you every night, and that's a feeling I wanna get used to. But there's no man as terrified as the man who stands to lose you. Oh,
hope I don't lose you. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Oh, please don't take. I found my mind, I'm feeling insane. It's been a while, but I'm finding my faith. If everything's good and it's great, why do I sit and wait till it's gone? Oh, I tell you, I know I've got enough. I've got peace and I've got love. But I'm up at night thinking I just might lose it all. I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
Rhône. Salut, c'est David Guetta.
Hi, this is Ellie Goulding.
Hey, we are Cheat Codes.
Rhône FM.
All the hits.
I like my freedom, but I trade some for a kiss. Little do you know how long I've been waiting for this.
Took so long. I thought
Les plus belles soirées, les plus belles nuits,
c'est sur Rhône FM
avec les meilleurs moments de la journée.
Rhône FM.
Rhône FM. Feu vert, feu rouge.
Et il est l'heure de notre chronique chimie en compagnie de Xavier Fernandez. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur à l'Institut de chimie de Nice, Université Côte d'Azur. On aborde toutes les semaines des sujets divers et variés. Aujourd'hui, une chronique un peu plus légère. Si on vous parle de sildénafil ou si on vous parle de la petite pilule bleue, est-ce que ça vous dit quelque chose? Eh bien oui, effectivement, on vous parle là bien du Viagra, un médicament qui a révolutionné la pharmaceutique.
Et oui, c'est vrai que c'est un petit peu plus léger, hein, mais tout le monde connaît cette molécule, ce médicament, qui a été un véritable succès hein, pour la société pharmaceutique Pfizer. Mais en dehors du succès, hein, il y a vraiment aussi eu un fait marquant avec le développement du Viagra, c'est que c'est un médicament qui a levé un tabou, hein, donc le tabou de la santé sexuelle masculine, et donc qui a révolutionné un petit peu l'ère moderne de l'industrie pharmaceutique sur une application un peu particulière.
Donc est-ce qu'elle a volontairement été inventée pour ça?
Et une fois de plus, hein, un terme qu'on retrouve très souvent dans nos chroniques, c'est ce fameux terme de sérendipité, la découverte un petit peu par hasard. Et ben, avec notre Viagra, on a la même chose. On se replonge dans les années 80. Donc notre laboratoire Pfizer, lui, il mène des recherches sur un médicament destiné à soigner l'angine de poitrine et l'hypertension artérielle. Donc vraiment, alors, rien à voir. Donc les chercheurs, ils espèrent développer une molécule capable de dilater les vaisseaux sanguins du cœur afin d'améliorer l'apport en oxygène et soulager les douleurs cardiaques. Alors, il s'avère que cette angine de poitrine, elle touche effectivement beaucoup d'hommes de plus de 50 ans. Donc, on a un vivier hein, dans les tests cliniques de patients un peu particuliers. Et autour de ces tests cliniques, cette molécule hein, qui vient d'être découverte, donc notre fameux sildénafil, donne des résultats assez mitigés sur l'angine de poitrine, mais elle montre un effet secondaire un peu inattendu, c'est qu'elle donne une amélioration notable des érections chez les patients masculins de cet âge, en particulier depuis de 50 ans. Donc les chercheurs ont compris rapidement que la molécule favorisait l'afflux sanguin vers le pénis, facilitant ainsi l'érection. Et donc Pfizer, très malin bien évidemment, a décidé de changer l'indication du médicament et de cibler le traitement du dysfonctionnement érectible et donc de déposer ce médicament pour cette activité. Il a été approuvé par la FDA américaine en 98 et c'est devenu le premier médicament oral efficace contre le trouble érectile.
Et aujourd'hui, en 2025, où est-ce qu'on en est avec ce type d'activité?
C'est vrai que le Viagra, ça reste le symbole de l'innovation médicale dans ce domaine-là, qui a bouleversé la vie de millions d'hommes à travers le monde. Et ben, tout simplement, ça a permis également de nouvelles recherches sur la santé sexuelle et la qualité de vie, tout en encourageant le dialogue autour de ces sujets longtemps considérés comme tabous. Et donc, il y a eu de gros progrès et c'est devenu un vrai sujet d'étude. Et c'est aussi grâce au succès du Viagra, il faut se l'avouer.
Un grand merci Xavier pour ce partage et à la semaine prochaine.
À très vite, merci.
Thought you'd understand, baby, credit cards aren't romance. So you're trying to buy what's already yours. What I need from you is not available in stores. Seen inside of you that I really feel. Doing way too much, never keep it real. If it doesn't change, gotta hit the road. Now I'm leaving with my keys, I've got.
All that matters to you is that you treat me right. Give me all the things I need. That's my Température estivale du moment, je suis sûr que certains d'entre vous, je dirais même plus les plus sportifs d'entre vous, ont planifié plein de belles randonnées cet été. Le rituel, c'est toujours un peu la même chose, hein. On choisit un spot, on prépare son sac à dos avec un petit casse-croûte, une gourde d'eau et des bonnes chaussures de marche. Mais en pleine nature, on se retrouve souvent confronté au même problème capital. Comment faire si on a une envie pressante d'aller aux toilettes? Fort de ce constat, le Club Alpin Suisse et l'association Suisse Rando ont lancé une campagne de sensibilisation commune, pleine d'humour. Elle est intitulée « Pose ta pêche au bon endroit ». Alors oui, vous avez bien entendu, c'est comme ça. Derrière ce titre rigolo, un vrai message écologique. On ne fait pas ses besoins n'importe où et n'importe comment. Pardon. Voici quatre petites astuces. La première, c'est l'anticipation. Avant de partir, pensez à aller aux toilettes. Alors oui, c'est un peu débile dit comme ça, mais oui, même si vous n'avez pas trop envie, c'est important d'y penser avant. Et si vous planifiez, je vais y arriver, votre trajet, repérez les refuges, les cabanes ou les stations. Un petit café et un arrêt technique, c'est bon pour vous ainsi que pour l'économie locale. Deuxièmement, en cas d'urgence, la nature est vaste. Pas besoin de transformer le premier buisson venu en espace sanitaire partagé, hein. On vise un endroit tranquille, discret, loin des rivières. On pense aussi à ceux qui boivent l'eau en aval, hein, n'oubliez pas. Troisième astuce, utiliser du matériel. Pas besoin de prendre une pelle de chantier, hein, une pierre, un bâton ou une petite pelle de randonnée à la limite si vous êtes équipé. L'idée c'est de creuser un petit trou d'environ 15 cm. Alors je sais que c'est très précis, mais c'était vraiment écrit comme ça, comme à l'armée. Ensuite on recouvre bien, ni vu ni connu. Et la dernière, la plus importante, ramassez vos papiers et vos déchets. Alors oui, je sais, ça casse un peu le romantisme du grand air, hein, mais les mouchoirs et les lingettes jetées derrière un rocher, ça met jusqu'à 5 ans à se décomposer, c'est énorme vraiment. Et brûler, n'y pensez même pas, c'est encore pire, hein, et tous les risques d'incendie, il y a déjà assez d'incendies comme ça en ce moment dans le monde, donc c'est hyper important. Voilà, maintenant je crois que vous êtes fin prêt à affronter Dame Nature dans le respect. Vous pouvez y aller sans problème, parce qu'on redonnait comme ailleurs, laisser un beau souvenir, c'est mieux que de laisser une trace.
You're always out to impress. You're always out to impress. sur Rhône FM,
on a gardé le meilleur de la journée. Rhône FM.
Tam Tam.
On approche à grands pas de l'été. Beaucoup d'entre vous, j'en suis sûr, vont adapter leur alimentation en conséquence pour quelque chose de plus frais. L'occasion pour moi de vous ressortir une chronique sur une campagne marketing juste géniale qui parle justement de fruits et légumes. Notre coup de génie en marketing du jour nous vient tout droit de Colombie avec une chaîne de supermarchés méconnue ici mais omniprésente là-bas. C'est Marco qui nous présente la campagne Ripe is Wrong. Traduisez, trop mûr n'est pas bon. C'est une initiative présente dans les supermarchés qui a pour but de lutter contre le gaspillage alimentaire. Comment, me diriez-vous ? Eh bien, cela grâce à des stickers collés sur les fruits et légumes. Le principe est hyper simple. En fait, on colle des stickers sur les aliments. Et sur ces stickers sont présents plusieurs couleurs qui représentent respectivement les degrés de maturité du fruit. Par exemple, sur une banane, ça va du vert au brun en passant par le jaune. Sur un avocat, ça va du vert au marron, etc., etc. Et en fait, pour chaque couleur, une recette est suggérée, ce qui rend le consommateur plus susceptible d'acheter le fruit, même si au premier abord, il paraît trop mûr ou au contraire pas assez. Voici quelques exemples. Hein. Vous rendrez compte que, imaginons, voilà, vous rendez compte que votre banane est verte, tout comme le sticker accroché sur cette dernière, eh bien pas de souci, elle est assez mûre pour en faire une banane flambée. Trop brune, le sticker vous suggère des cupcakes. Allez, prenons également l'exemple de la mangue. Tiens, elle est trop verte, eh bien pas de souci, cela en fera une excellente salade. Trop orange, eh bien cuisinez-la en milkshake. Bref, une belle campagne qui prouve qu'un fruit, tant qu'il n'est pas périmé, n'a aucune raison d'être jeté, et qu'avec un peu de créativité, on peut faire des tours de maître en cuisine.
rythme la vie.
Touch us all, go ahead and cry your river. You keep going.
aujourd'hui
sur Rhône FM. Rhône FM,
aux origines de...
Chaque matin, cette chronique, on parle d'histoire et d'anecdotes en tout genre. C'est aux origines d'eux. Et aujourd'hui, cheese, hein, comme on dit, hein, puisqu'on va parler de photographie. Et plus précisément, de la toute première photo du monde, qui a d'ailleurs fêté ses 200 ans cette année. Ou pas. On ne sait pas trop, en fait. Hein. Certains disent qu'elle a été prise en 1825, d'autres en 1827, plus précisément. Peut-être entre le 4 juin et le 18 juillet. Tiens, exactement la période dans laquelle on se trouve en ce moment. Bref, les dates sont controversées. Et qui plus est, en réalité, aujourd'hui, il s'agit juste d'une plaque d'étain sur laquelle on ne distingue presque plus rien, puisque la photo s'est